Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Pour ce nouveau numéro, le rock instrumental et hypnotique croise une pop avant-garde avec les deux disques soutenus par les radios de la Ferrarock cette semaine. Il s'agit de Labyrinthe par Chaton Laveur et Amarao par BB Club. Il sera également question de la 50e édition du Festival du Printemps de Bourges qui aura lieu du 14 au 19 avril. Commençons donc ce magazine avec le duo québécois BB Club qui s'aventure dans l'avant-pop et l'électronique body music pour leur troisième album nommé Amarao. On le découvre avec Marine depuis la radio CISM à Montréal.
De recevoir Adèle et Nicolas qui a deux formes BB Club. Salut à vous, comment ça va?
Ça va, merci, toi?
Mais oui, très bien.
Très bien.
Alors votre album Amarao est sorti le 27 février, 11 titres pour précisément 32 minutes de musique. C'est pas votre premier album. Pour composer cet album, est-ce que ça vous a pris comme un moment de création, de composition pour le sortir ou alors c'est vraiment un processus de création peut-être depuis le début de BB Club pour vos musiques?
Mais on est tout le temps un peu en train d'enregistrer de la musique, de composer. Donc, c'est vraiment c'est comme un processus créatif en continu. Puis souvent, on a des idées qu'on enregistre en tournée à la maison, mais on est tout le temps en mouvement un peu pour la création. Puis c'est souvent sous forme de démo, puis après, on se book un studio, puis là, on construit le puzzle, on construit l'album au complet.
Donc c'est ça, alors vous êtes deux, pour le chant ça va plutôt être toi Adèle qui va chanté tout le temps, en tout cas dans mes souvenirs. Peut-être que j'ai loupé certaines voix. Comment vous fonctionnez pour l'écriture en termes de musique et pour les paroles aussi?
La musique et les paroles se travaillent en parallèle au même moment. On va souvent partir, peut-être plutôt partir de la musique pour finalement développer un peu l'univers de la chanson, les thèmes qu'on a envie d'aborder. La couleur de la musique, la couleur des accords va venir un peu diriger le propos de la chanson. Souvent, quand on est une fois qu'on est en studio et qu'on enregistre de façon un peu plus officielle, on va prendre ce temps-là si précieux pour justement tout travailler d'un coup. Donc, Nico peut être en train d'installer les micros dans le studio, puis moi à ce moment-là je vais prendre quelques minutes pour faire une ébauche de paroles, puis là on s'y met dès qu'on est prêt. Donc c'est un processus assez plutôt instinctif. On n'a pas tellement de structure, c'est pas très carré comme structure, mais ça fonctionne. On a un langage ensemble, une façon, un air d'aller.
Donc, ça va toujours être les paroles qui vont venir ensuite se placer sur la musique. Il n'y a jamais eu des idées de textes qui sont venues avant et qu'il a fallu ensuite accompagner en musique, par exemple?
Peut-être pas nécessairement des paroles qui sont venues, mais des thèmes, oui. C'est arrivé assez souvent d'avoir un thème qu'on a presque besoin d'explorer, besoin d'aller... Oui, d'aller explorer.
Oui, puis il y a des sections de paroles ou des qu'on pense pour une chanson, puis finalement, elle se ramasse dans une autre chanson. Oui, ça arrive quand même à l'occasion qu'il y a des mots qui traînent, puis qu'on les place, mais rarement comme un texte complet. Je pense qu'on conçoit la chanson puis la musique comme étant quelque chose de viscéral puis qui doit être instinctif, particulièrement pour cet album-là. Il y a vraiment quelque chose dans le corps, puis j'ai l'impression que ce qui est une façon valable d'écrire de la musique, mais que peut-être on associe plus au chansonnier, au côté folk, de s'asseoir avec une guitare puis d'avoir ta chanson du début à la fin. Je pense que pour nous, cette technique-là devient plus comme une contrainte plus que quelque chose de créatif, parce qu'on se laisse inspirer par les sons. Puis s'il y a un coup de cymbale, puis Adèle fait juste dire un mot, peut-être que c'est suffisant, puis tout est dit à ce moment-là, tandis que si on était assis avec une guitare à composer, puis écrire les paroles, puis la musique, mais je sais pas, il y a quelque chose de plus formel, donc ça nous permet d'être vraiment dans l'instinct, dans le corps, puis de juste être en mouvement, en fait, tout le temps.
Ce serait peut-être trop d'avoir justement toute cette musique et finalement tous ces mots qui viendraient ensemble dans une de vos chansons?
Oui, ou ce serait... tout est possible. Il n'y a pas un règlement, mais ça devient comme une... Je sais pas si ça nous intéresse tant que ça comme avenue de l'avenue des un peu plus traditionnelle, en fait, de la chanson. Je pense que idéalement, on essaie de se surprendre, les autres, puis de se dépasser, puis de prendre peut-être des chemins qui sont moins connus, finalement.
Oui, c'est juste pas votre fonctionnement, finalement.
Voilà.
Et justement, quand vous commencez à composer, donc j'ai l'impression que de ce que vous dites, ça va plutôt commencer par la musique. Est-ce que vous avez des fois ces thématiques qui sont en tête, ou alors ça vient vraiment, sans trop réfléchir, avec votre cœur, vous composez, puis c'est comme ça, et ensuite vous écoutez votre propre musique et ça vous fait ensuite imaginer d'autres choses?
Je pense que ça dépend des fois. Je pense que dans le cas d'Amaro, on avait vraiment... un thème qui s'est imposé de lui-même dès le début. Puis on dirait que c'est un peu comme si on dirait quand on se met à trouver des mots pour les chansons, elles se répondent les unes aux autres. Puis c'est un peu les chansons puis le travail ensemble qui nous dit quoi, où aller finalement. On dirait que les chansons se répondent l'une à l'autre, puis on dirait, ah, soudainement, dans telle chanson, on parle de tel thème, donc on va lui répondre dans l'autre. Puis je sais pas, il y a quelque chose où c'est comme le... Ouais, je sais pas, mais... Je ne sais pas à quel point on prédétermine d'avance, par contre, de quoi l'album va parler. Je pense que ça se dessine un peu en découvrant les chansons, finalement.
Alors, vous parliez de surprise. En quoi cet album, s'il vous a surpris, en quoi est-ce qu'il vous a surpris, justement?
En quoi est-ce qu'il nous a surpris?
En rien, on le connaît par cœur.
Oui, ben, peut-être que ça répond un peu à ce qu'on explique concernant le processus créatif, mais ben, en studio, on se surprend, Nico et moi, assez régulièrement, autant dans la... Dans les trouvailles aussi au niveau des sons qu'on trouve. Si pour répondre plus spécifiquement à cette question, à ma grande surprise quand on est arrivé au studio où est-ce qu'on a enregistré l'album Amaro, il y avait un clavecin dans le studio. Puis c'était une agréable surprise parce qu'on s'était pas dit d'avance « Ah, ça nous prend du clavecin sur cet album », mais il y avait un clavecin à notre disposition. Donc, on a joué du clavecin sur certaines des chansons. On en a fait une couleur qui est vraiment c'est très subtil sur l'album. C'est pas l'instrument principal du tout de l'album, mais c'était tellement une belle surprise. Puis je pense que d'avoir un nouvel élément à notre disposition nous a grandement inspiré. Donc, c'est devenu je trouve que ça a donné une couleur tout de même à l'album, même si c'est vraiment utilisé avec parcimonie. On en a joué, c'était très inspirant de jouer sur un instrument ancien aussi. Ça a comme ouvert des portes aussi au niveau des thèmes puis tout ça, ouais.
Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont surpris sur cet album?
Qu'est-ce qui m'a surpris? Mais oui, ben oui, cet élément-là qu'Adèle parlait, je pense qu'il y a des surprises en studio tout le temps. Je sais pas. Je pense que ce qui me surprend, c'est que j'ai pas. Souvent, tu termines un album, puis il y a des éléments que tu aurais aimé faire autrement, ou que tu as une direction que tu aurais voulu pousser, puis que tu n'as pas été jusqu'au bout. Puis peut-être. Par les choix qu'on a faits, ce qui me c'est peut-être pas tant une surprise, mais je suis content encore de l'album. J'ai pas l'impression qu'on a pris de shortcut, de raccourci pour quoi que ce soit. Je sens qu'on est vraiment allé au bout de chaque idée. Puis en soi, c'est une surprise parce que c'est quand même rare que ça arrive. T'sais, souvent, l'album se termine, puis il y a des chansons sur lesquelles t'as pris une distance ou qui résonnent moins à ce moment-là. Tandis que celui-là, on dirait que c'est jusqu'au bout, ça a été vraiment du plaisir, puis... à créer, puis ça a été inspirant. Donc, ouais, je pense ça.
C'est beau. Un album qui vous ressemble encore oui. Depuis l'enregistrement jusqu'à aujourd'hui. Ce studio, il est avec une personne, des personnes. Vous travaillez aussi entouré. Comment ça se passe justement la création et la sortie de cet album pour BB Club?
L'enregistrement s'est fait à deux. On est que nous deux dans le studio. Donc, on porte les chapeaux d'ingénieur, d'arrangeur, de réalisation, tout ça. On fait tout à deux. Puis ensuite, on ouvre un peu, on ouvre un peu à plus grand. Dans le cas d'Amaro, on a fait mixer l'album par quelqu'un d'autre qui s'appelle Seth Manchester, qui est basé à Providence aux États-Unis. Puis oui, à partir de ce moment-là, les collaborations viennent s'intégrer.
Oui, puis dans ce cas-ci, on a aussi travaillé avec la même personne qui s'appelle Megan Vogel, qui est une artiste visuelle pour tout l'aspect visuel de l'album. Et elle a collaboré avec Hugo Janson, qui est un graphiste qui est très créatif. Mais ils sont arrivés quand même alors que l'album n'était pas encore terminé. Donc, leur découverte visuelle nous a informés aussi, puis peut-être nous a amenés à pousser un peu plus l'enveloppe de l'album d'une certaine façon, parce que on voyait une image que Megan avait créée, puis on disait « Ah oui, okay, on pourrait pousser telle sonorité, tel thème dans l'album. » Donc, il y a quand même un échange à ce niveau-là.
Le visuel est arrivé assez tôt dans le processus, comme Nico y dit. Comme au niveau de l'enregistrement puis de la composition, tout ça, on n'est que les deux. Ça fait énormément de bien aussi à un certain point de pouvoir intégrer des dialogues justement avec des personnes extérieures, avec ces collaborations-là, parce que, comme tu dis, Nico, ça vient nourrir aussi notre processus en parallèle.
Oui, puis l'aspect visuel, c'est un aspect qui a été important dès la genèse de cet album-là, dans le sens qu'on a, on a été inspiré. Adèle ressortait souvent des photos. On a eu une journée off en tournée ou d'attente, en tournée à Angers, où il n'y avait peut-être pas tant de choses à faire. On est allé visiter le château.
Une journée d'attente ouais, dans, à Angers.
Oui, on est allé visiter le château d'Angers dans cette journée parce que c'était l'attraction touristique. Puis il y avait une exposition des tapisseries de l'Apocalypse dans les donjons, je ne sais pas, du château. On a vraiment été inspirés par ça. En fait, à ce moment-là, ça fait longtemps, là, mais Adèle prenait des photos, puis il y a des thèmes sur des tapisseries, puis on dirait que quand on a été dans la création de l'album, ces photos-là revenaient souvent où on dirait qu'il fallait que la musique colle avec ces tapisseries, il fallait que ça fonctionne. Puis donc, il y avait cet aspect-là visuel qui était présent dans la création. Puis ces tapisseries-là ont influencé aussi Mégane, qui a créé, qui est l'artiste visuel qui a fait la pochette, qui a créé des encres à sa façon, mais qui un peu comme dans les tapisseries de l'Apocalypse où on retrouve des personnages comme dans des fenêtres. Finalement, c'est des fenêtres sur certaines parties de l'Apocalypse avec leurs personnages principaux. Puis Mégane a fait un peu ça avec les personnages de l'album finalement et les territoires de l'album. Donc, ouais, les collaborations sont. C'est inspirant quand les gens se sentent libres puis stimulés par la musique aussi qu'on est en train de créer.
C'est vrai que ça fait maintenant quand même pas mal de sens, je trouve, d'avoir cette histoire. D'après ce que j'ai pu voir et écouter de votre album, j'ai l'impression de faire des liens et de me dire que c'est drôle qu'il y ait certaines choses qui sont nées dans le château d'Angers, peut-être, finalement, mais je sais pas. Et vous disiez que quand, par exemple, au moment de mettre des paroles ou de faire la musique, il y a certaines thématiques que vous avez déjà en tête. Est-ce qu'il y en a des nouvelles qui sont venues vous surprendre? Alors, pas forcément le château d'Angers, mais peut-être d'autres choses?
Pendant la création de l'album?
Oui.
Mais Adèle, c'était acheté dans un musée, un livre... Oui. Georges Sand, sur le manifeste pour la survie de Fontainebleau, c'est ça? Je me souviens plus le titre.
Oui, puis c'est que, ça.
Puis que la lecture a inspiré juste des phrases qui sortaient de ce livre-là, puis ça l'a inspiré les paroles d'une chanson sur l'album qui s'appelle Georges Sand. Mais dans les thèmes, l'album parle beaucoup du deuil, puis cette personne-là, mais elle a tellement de rage de vivre, donc, ça, on dirait que ça faisait un beau contraste, mais en même temps, ce livre-là parle de c'est une botaniste aussi, donc parle de son amour de la nature, puis la nature, mais il y a quelque chose du chaos, de la fureur de vivre, tout ça, donc qui faisait du sens, puis qui s'est retrouvé dans l'album. Mais oui, je ne sais pas s'il y a d'autres thèmes à part ça.
C'est les grands thèmes. Ouais. Le deuil, la fureur de vivre, la nature, le château d'Angers.
Je pense que ça explique déjà pas mal pour ces 32 minutes et ces 11 titres. Et puis, à très bientôt.
Merci.
Merci.
Amour, survie à la mort. La terre, le sang et les larmes. Il m'a dit... survie à la mort.
C'était l'interview de Bibi Club pour la sortie de Amarao, nommé album découverte de la semaine. Également à l'honneur sur votre radio Ferrarock, le nouvel album de Chaton Laveur nommé Labyrinthe. L'occasion de plonger dans les spirales crotrock du duo grâce à Jordan de Radio Méga à Valence.
C'était Fantasia de Chaton Laveur, dont l'album Labyrinthe sort chez Exage Records le 13 mars 2026 précisément. Le duo originaire de Liège en Belgique a été formé vêtu de pyjama lors du grand confinement général de 2020. Depuis, il et elle n'ont eu de cesse de composer, jouer et tourner avant de finalement enregistrer un album hommage à toutes ces personnes qui les ont soutenues depuis leur début pantouflard. Pour parler de Labyrinthe, donc, leur album de shoegazing psyché, crotte et motorique qui sort chez Exage Records, leur compatriote belge, je suis en compagnie de Julie, qui est guitariste, bassiste et chanteuse, et Pierre, qui est batteur, claviériste et chanteur du groupe. Salut à vous et merci de m'accorder cette interview.
Salut, merci à toi.
Salut Jordan, merci à toi.
Alors pour commencer, j'aimerais que l'on parle de ce morceau que l'on vient d'écouter, Fantasia. C'est l'un de vos titres qui est chanté en espagnol. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce morceau qui est donc extrait de votre album Labyrinthe ? Tout ça, moi, Fantasia, Labyrinthe, ça m'évoque un peu Escher et ses labyrinthes médiévaux. Je ne sais pas si c'est... Si c'est dans vos influences.
Alors, ce n'est pas forcément dans nos premières influences, même si je l'ai déjà entendu. Ouais. Pour Fantasia, moi, j'aimais bien de chanter en espagnol. Déjà, là-bas, je suis professeur de langue, donc je suis professeur en anglais et en espagnol. Et c'est vrai que le choix de l'espagnol, je ne sais pas, c'est un peu imposé. Quoi. Au début, j'étais moins à l'aise d'avoir vraiment des paroles chantées en français. Et donc, ça m'a vraiment paru tout à fait adapté, notamment aux sonorités un peu orientales et doom dans Fantasia, quoi. Et donc ça va, ça s'est super bien mis. Au début, j'ai juste créé la mélodie de la voix. Et puis les mots en espagnol, avec les voyelles, notamment en A, marchaient hyper bien. Et c'est comme ça qu'on a développé le morceau. Voilà.
Oui, Fantasia, c'est du coup la focus track de l'album Labyrinthe. Et je pense qu'elle représente bien ce côté expérimental de recherche où il y a plein de détours, de chemins différents. Et voilà, Fantasia, on a décidé de la mettre comme focus track parce qu'à la fin en live, c'est vraiment celle... Pour l'instant, en
j'adore,
tout cas,
je
préfère
ouais.
jouer, elle est super chouette et elle passe par plein de chemins et ça représente vraiment Labyrinthe et c'est pour ça qu'on a appelé l'album comme ça.
Vous dites que cet album, c'est une sorte d'hommage aux personnes qui vous ont soutenu. Ça laisse penser que la musique a du coup pris dans votre vie une place centrale. Est-ce que vous pouvez nous raconter le processus d'écriture de cet album ? Comment il vous est venu ?
Oui, il a été écrit l'année dernière pendant la tournée. Enfin, du coup, nos premières dates, et on a eu la chance de quand même jouer beaucoup. Et du coup, c'était vraiment une écriture entrecoupée de moments de concert. Et on ramenait chaque fois ces belles rencontres qu'on faisait sur la route, que ce soit du public ou d'autres groupes qu'on a découverts. Et on se dit, waouh, on veut trop essayer des choses comme ça. Et enfin, c'était vraiment super motivant quoi, d'être sur la route, de revenir, d'écrire et d'avoir ces séances entrecoupées. Ça a aussi du coup impliqué une nouvelle méthode de travail pour nous. Les premiers morceaux qu'on a sortis, on a vraiment eu un temps, c'était le premier album de notre vie, mais on a eu vraiment tout le confinement, un temps énorme pour le faire. Et là, on s'est donné une deadline beaucoup plus précise. Mais en effet, ça a été fort alimenté par les rencontres qu'on a faites. Quoi.
Justement, cet album, il commence par un morceau qui s'appelle In et il finit par un morceau qui s'appelle Out. Qu'est-ce que ça te dit de l'album ? Pourquoi vous avez choisi de faire comme ça une intro et puis une outro pour vraiment fermer le truc, faire comme des chapitres ?
Alors, ce qu'on avait envie de faire, c'était ça, des chapitres, donc un peu une espèce de voyage introspectif où on rentrait, quoi. Et puis, on se laissait un peu porter par plein d'ambiances. C'est ce qu'on essaie de faire dans Chaton Laveur, c'est d'essayer de, malgré le fait qu'on soit un duo, essayer d'être riche dans le son et riche dans la proposition et de aussi nous faire plaisir dans la musique qu'on a envie de proposer. Donc, c'est comme ça qu'on passe par des influences plus shoegaze, plus krautrock, plus... carrément doom, des moments qu'on a découverts et qu'on adore, plus psyché. Et c'est vrai que le contraste avec le Covid était quand même fort parce que pendant le Covid, on ne voyait personne sur scène. Et là, on a vu mais énormément de concerts. Et ça, c'est très inspirant de se sentir, de faire partie d'une scène DIY qu'on adore et qu'on a envie de rendre encore plus solidaire si possible.
Et du coup, cette intro, c'est vraiment cette entrée dans le labyrinthe et ce voyage où on est confronté parfois à des choses, des émotions plus négatives, un truc de recherche personnelle, etc. Et puis cette sortie où j'espère on en sort un peu grandi ou différent.
Voilà.
On en reparlera après la pause musicale, parce qu'on va écouter un nouveau morceau. On est au milieu de l'interview. J'ai choisi le morceau Bonhomme de neige. C'est un de vos morceaux qui est chanté en français, qui me fait beaucoup penser à une comptine, mais pour adultes, comme peut le faire par exemple Camilla Sparks, qui est dans un groupe avec lequel vous avez tourné, à Peter Kernel. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de ce morceau Bonhomme de neige ?
C'est vrai qu'il y a un côté dans notre musique, dans l'écriture des textes, un peu faussement naïf. Et puis après, quand on gratte cette couche-là, en fait, ça raconte des choses derrière. On se cache derrière, comme tu dis, des petites histoires pour parler de vraies choses. Mais Bonhomme de neige, du coup, c'est vraiment ce souvenir d'enfance, de façonner un bonhomme de neige avec ma sœur, en l'occurrence. Et on met toute notre énergie, on met notre passion dans cette œuvre. Et puis elle finit par fondre, à disparaître, et il n'en reste plus rien. Et c'est un peu l'histoire des relations aussi qu'on peut avoir, continuer à garder cette complicité qu'on a avec un frère, une sœur à l'âge adulte. C'est complètement différent. Il y a l'éloignement, il y a les chemins de vie qui sont pris. Et Neige parle de ça, parle de ce côté éphémère qui ne dure pas, voilà, et qu'on essaie de faire durer.
On écoute tout de suite donc le morceau Bonhomme de neige, extrait de Labyrinthe de Chaton Laveur, et votre album sort chez Exage Records.
Nos doigts, on croyait pas.
C'était Bonhomme de Neige, extrait de Labyrinthe, le deuxième album de Chaton Laveur qui sort chez Exage Records. Je suis toujours en compagnie de Julie et Pierre. Alors, après plusieurs écoutes de votre album, il me semble qu'il y a quelque chose de très instinctif dans votre manière de composer. J'ai l'impression que c'est là depuis vraiment le début de votre duo, de votre groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe pour vous, la compo, et quelle place occupe l'expérimentation globalement dans votre musique?
Alors, on jamme pas vraiment. Donc, on n'est pas vraiment un groupe de jam. J'ai déjà eu des autres groupes où on faisait de l'improvisation. Ici, c'est pas tout à fait l'idée. Par contre, on suit vraiment notre instinct et on se pose pas de cadre d'avance. On essaie de voir un peu ce qui sort, de nous. Et en ça, on essaie d'être le plus authentique possible. Et on avait vu notamment que pas mal de groupes, une des richesses des vrais groupes qu'on adore, quoi, c'est qu'ils passent énormément de temps ensemble. Et nous, on vit ensemble. Et en plus, on peut répéter chez nous. Et ça nous met vraiment dans un contexte idéal parce que chaque minute qui passe peut être éventuellement l'opportunité pour une nouvelle idée, quoi.
Ouais, on écrit de manière presque quotidienne, enfin quand on est dans les phases de compo. Et dès qu'on a une idée ou qu'on a envie d'en parler, voilà, composer, c'est pas que quand on est dans le local de répète, ça se fait vraiment tous les jours. Et dans notre méthode de travail, on a aussi depuis le début, de par ma formation d'ingé son, on a quand même un équipement chouette. Donc on enregistre quasi toutes nos répètes et nos phases de composition en multipiste. Ça permet vraiment après d'aller réécouter, de porter une attention forte au son. Ça, c'est vraiment de base, très tôt dans le processus. Et on aimerait d'ailleurs pour la suite continuer dans cette forme artisanale, de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. On a vraiment envie d'aller plus loin dans la production dès l'état d'écriture et de composition, et limite de ne plus passer par un studio d'enregistrement, mais d'essayer d'enregistrer un maximum nous-mêmes pour vraiment garder cette essence qu'il y a dans l'écriture. Et voilà, on aimerait bien plus tendre vers ça. Et voilà, et un dernier mot sur la composition, je dirais qu'on reste chaque fois le seul leitmotiv qu'on se met, c'est une idée par morceau qui sert une émotion. Et voilà.
C'est beau, c'est très beau. Ben justement, en fait, quand tu parles d'artisanat, ça me fait penser à votre clip qui est sorti là qui accompagne le morceau qui s'appelle Contre la montre. Je trouve que ce clip, il est à la fois très artistique et il a un côté un peu absurde. Et il est très artisanal. Je trouve que c'est vraiment la preuve qu'avec peu de moyens et de bonnes idées, on arrive à faire vraiment des choses chouettes. Comment vous envisagez l'imagerie qui accompagne votre musique, votre pochette? Dans ce clip, j'ai l'impression que les images, enfin, votre pochette, c'est comme une projection sur vous d'image. Le clip, j'ai l'impression qu'il reprend ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous suit aussi sur scène? Racontez-nous.
Alors oui, l'idée c'est que sur le premier album, on avait dû faire 3 ou 4 vidéos. Et à chaque fois, ça, vu qu'on n'est pas des spécialistes encore des visuels, quoi, ça nous demandait d'apprendre des nouvelles choses, de penser une nouvelle idée, d'avoir une nouvelle façon d'approcher les choses. Par contre, pour le deuxième album, on a essayé de se dire bon, cette fois, ce qu'on va faire, c'est que on va approcher ça en amont, on va y penser. Et donc, c'était lors d'un trajet justement de tournée où on s'est imaginé cette idée du voyage introspectif et d'avoir une espèce de parallélisme entre un monde qui serait le monde des projections et la réalité. Donc, en fait, pour tout ce qui s'est passé, on a été filmer des lieux qu'on a finalement projetés dans une boîte noire et nous, on interagit avec ces lieux-là dans la boîte noire. C'est ce qui se passe dans Contre la montre. Je fais du vélo sur place, mais avec des films qui ont été pris avant, donc avec la route, quoi. C'est ce qui se passe dans la source également, etc., etc. Et pour le live, je laisserai Jus
Ouais, et chaque
expliquer.
morceau, en fait, on a décidé de plus faire de clip parce qu'on voit que c'est la fin d'une ère, mais on voulait vraiment un contenu visuel avec une cohérence pour chaque morceau. Donc, on a décidé de faire des mini-clips de boucles qui se prêtent très bien à notre musique puisque c'est beaucoup un côté crowd motorique répétitif. Et donc, chaque morceau de l'album est ou sera accompagné d'une vidéo sur la même thématique, chaque fois filmée dans cette boîte noire qui représente en fait le labyrinthe dans lequel on se perd et dans lequel on évolue, quoi. Et alors, on a travaillé tout cet automne sur un show visuel live où on reprend cette esthétique et qu'on remélange une troisième fois. Enfin, voilà, on est vraiment dans une boucle sans fin.
Une inception permanente.
Voilà.
Et la photo de l'album, effectivement, c'est ça. C'est une photo, prise sur le vif avec les projections qui tournaient. Et c'est un moment choisi, on en a 1000 qu'on aurait pu choisir, mais on a choisi celle-là.
J'imagine, oui. Bon, en tout cas, je suis impatiente de voir les nouveaux clips avec ces images projetées. On arrive à la fin de l'interview. Je vous remercie, Julie et Pierre. Je rappelle que la Ferrarock soutient Labyrinthe, l'album de votre duo Chaton Laveur, qui sort chez Exage Records. Au revoir et merci encore.
Merci.
Merci beaucoup à Ferrarock, hein. Merci à toi.
Vous êtes toujours dans Dig Dig Diggers et pour clôturer ce magazine, Lucie de la radio Westrack au Havre est en compagnie de Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges, à quelques jours du lancement du festival qui aura lieu du 14 au 19 avril 2026.
Chaque année, le Printemps de Bourges donne le ton des festivals à venir, mais derrière l'affiche, il y a aussi des choix, parfois des renoncements, et évidemment une certaine vision de la musique. Et aujourd'hui, on en parle avec Boris, directeur du festival. Bonjour Boris.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bah, merci beaucoup pour votre temps, surtout à quelques jours du festival. Comment ça se prépare là ?
Bah, ça se prépare bien, on est sous le soleil, donc les équipes montent avec allégresse, j'ai envie de dire. Et puis, on espère que ça laissera la partie encore la semaine prochaine, mais ça, c'est encore un autre sujet. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y aura plein de bonne musique, et ça reste quand même l'essentiel.
Et c'est le cas chaque année. Et d'ailleurs, on présente souvent le Printemps de Bourges comme un baromètre des tendances musicales. D'ailleurs, c'est l'ouverture des festivals, l'ouverture de la saison. Est-ce que le Printemps de Bourges, et vous, en tant que directeur, vous vous reconnaissez dans ce rôle ?
Oui, tout à fait. Ça va être la 50e du printemps cette année, donc si on est là depuis 50 ans, 50 éditions en tout cas, c'est qu'on a bien un rôle, une utilité. C'est le festival, effectivement, c'est le premier des festivals de musique actuelle qui a été créé en 77. Et quand il a été créé en 77, c'était précisément pour offrir une scène à ces nouvelles générations d'artistes qui n'en avaient pas à l'époque. Il n'y avait pas de festival pour les Yvelin, les Renaud, les Brigitte Fontaine, etc. C'était des artistes alternatifs. C'était souvent la chanson, mais c'était la chanson alternative. C'est pour ça que j'aime rappeler que c'est un festival alternatif. Et cette alternative, aujourd'hui, c'est tous les artistes émergents qui représentent 70% de l'affiche.
Et après 50 ans, quand on construit la programmation, le choix, est-ce qu'on part toujours d'un désir artistique ou est-ce qu'il y a aussi une lecture stratégique du marché ?
Je dirais que notre rôle, il est quand même de s'attacher à, de regarder ce qu'est le marché, si on va appeler ça un marché, mais en tout cas le paysage de musique actuelle en France. C'est notre rôle, effectivement, ça peut pas être que le goût d'un ou d'une programmatrice de l'année en cours, et notamment quand on parle des Inouïs, par exemple du printemps, on prend toujours attention à ce que ces Inouïs représentent tout le paysage musical. C'est-à-dire que si la mode est au rap ou aux musiques électroniques, il y aura toujours quand même de la chanson, du jazz, de l'électro, parce que les musiques de demain sont pas forcément celles qu'on écoute aujourd'hui, ou en tout cas les tendances.
Est-ce qu'il y a toujours une pression forte, notamment du public, les producteurs, et une certaine attente, même après toutes ces années ?
Oui, je pense qu'on est toujours... D'ailleurs, on a de plus en plus de professionnels qui viennent à Bourges, donc on parvient toujours à exciter, ou en tout cas intéresser les professionnels, c'est qu'a priori, on ne fait pas trop mal notre boulot, sinon je pense que ça ne marcherait pas. Et pour y parvenir, on s'assure d'avoir un réseau de professionnels autour de nous qui soit le plus exhaustif et le plus représentatif de ce que vous disiez, le marché. En tout cas, encore une fois, les scènes de musique actuelle en France. Et c'est très, très, voilà, c'est un grand pays et avec des particularités et puis des esthétismes en fonction des régions. Je pense toujours que le métier d'artiste, c'est sans doute parmi les plus difficiles au monde. C'est très, 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 très difficile pour plein de raisons. Un, il faut avoir déjà les bonnes chansons à présenter aux gens. Si vous n'avez pas les bonnes chansons, il n'y a pas vraiment raison que ça marche. Et puis surtout, il faut énormément de courage. Énormément de courage, parce qu'à un moment dans votre vie, vous vous dites, bon, finalement, j'arrête mes études ou je quitte ce boulot pour me consacrer à ça. Et ça, on n'imagine pas à quel point c'est difficile, parce qu'il y a sans doute votre entourage, votre famille qui vous dit, mais franchement, c'est quand même trop dangereux, fais pas ça, fais pas ci, reste au boulot, continue tes études. Donc ce courage-là, il faut l'avoir. Et ensuite, il y a ce facteur chance qui va faire que vous allez rencontrer la bonne personne, ou que vous allez faire le bon concert au bon endroit, au bon moment. Donc voilà, il faut combiner toutes ces choses pour rappeler que oui, les plateformes, c'est une chose, c'est un outil de communication, mais vraiment, je pense que c'est 1% de la réussite d'un artiste. French kiss.
je connais la recette. Bébé, je veux.
Alors cette édition se déroule donc du 14 au 19 avril, 50e édition, une édition anniversaire. Vous l'avez réfléchi comme ça en tout cas, notamment pour la programmation générale?
Oui, tout à fait. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus en se disant que ce serait quand même con de la rater, celle-là, la 50e. Donc ça fait quoi, à peu près 2 ans qu'on travaille dessus avec des targets. On voulait absolument avoir... Patti Smith pour ouvrir le printemps. Pourquoi Patti Smith? Précisément pour rappeler un peu cet esprit alternatif et punk qui avait été celui du printemps à sa création en 77 par Daniel Colling. Les créations, on a voulu aussi faire des créations atypiques, donc ce cabaret complètement foldingue qui va retracer 50 ans de live à Bourges en passant des Frères Jacques en allant jusqu'à Aurel San. Voilà, c'est 50 ans de concert à Bourges revu par un cabaret et une compagnie de danse, le collectif F de Orléans, justement. Une passion sur les femmes, la contribution des femmes dans la musique électronique par Anne de Laurentiis, qui s'appelle Pionnière. Une création, 44 décennies de musique entre deux copains, Dominica et Philippe Catherine. Et puis, nouveauté cette année, on investit le champ de musique traditionnelle ou néo-traditionnelle avec une création entre deux groupes, un groupe du Centre Val-de-Loire et un groupe de Bretagne. Donc voilà, c'est et puis une énorme expo qui s'appelle Printemps Mon Amour, une autre qui s'appelle Festival Mon Amour, au pluriel pour parler des autres festivals. Donc non, il y a énormément de choses qui ont été pensées pour cette 50e, donc ça va être la teuf dans les salles, mais aussi pour les oreilles et aussi pour les yeux avec toutes les expos qu'on a préparées. Donc franchement, si vous n'avez rien à faire, vous venez à Bourges. Et si vous avez quelque chose à faire, bah vous annulez, puis vous venez à Bourges.
Il faut absolument annuler, surtout quand on voit rien que la programmation générale. Donc, vous l'avez mentionné, Patti Smith Quartet. Il y aura aussi Dominique A, Charlotte Cardin, Feu Chatterton, Oxmo Puccino. Et puis, il y a aussi, évidemment, la place pour les émergents. Vous le disiez, c'est aussi le rôle de ce festival. Un festival qui donne la part belle aux artistes en devenir. C'est les Inouïs du Printemps de Bourges. Donc, il y a eu un tremplin qui a permis de sélectionner plusieurs artistes. Comment ça s'est déroulé cette année? Comme chaque année, ça s'est très bien déroulé, j'imagine, des belles découvertes.
Oui, on n'imagine pas à quel point c'est notre pays, et puis il y a quelques pays associés, hein, comme la Belgique, le Canada, qui s'associe, et la Suisse, qui s'associe à nous. Non, c'est sûr, mais en fait, heureusement, j'ai envie de dire que c'est ça qui est rassurant, c'est de voir que notre monde est encore capable de produire plein de nouveaux talents et plein d'artistes qui proposent des choses que nos oreilles ne connaissaient pas hier et dont elles ne pourront pas se passer demain. Donc le plus dur, c'est de faire le choix. C'est de faire un choix, ce serait compliqué. Mais pour ça, on a des experts et des expertes qui se réunissent, qui vont dans toute la France d'abord, parce que c'est très long le processus. Hein, il y a 4000 candidatures. Après, on fait des concerts dans toute la France en retenant déjà 120 artistes. Et de ces 120 artistes, on va en retenir que 33. Donc, j'aime souvent dire que c'est plus compliqué d'arriver à Bourges que de faire Polytechnique. C'est ça, statistiquement en tout cas, statistiquement. Donc, c'était compliqué, mais on y parvient chaque année avec quelques bagarres des fois, mais ça va, ça se passe, on a des pansements. Qu'on avait pu dire un peu ensemble précédemment, c'est que on veille toujours à ce qu'il y ait une représentation exhaustive, c'est un peu, c'est peut-être ambitieux, mais en tout cas complète de toutes les esthétiques des musiques actuelles, d'accord? Donc effectivement, le rap, l'électro, la pop, et puis après on peut faire confiance aux artistes pour inventer des nouvelles esthétiques qu'on n'arrive pas à mettre où, on ne sait pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le rap d'aujourd'hui est quand même à des années-lumière de ce qu'était le rap. Imaginons, on parlait d'Oxmo Puccino, lui-même aujourd'hui quand il écoute du rap, le rap qui a présenté aux Inouïs, Je trouve ça fascinant de voir à quel point, quel parcours il y a eu entre les artistes d'aujourd'hui et les artistes d'il y a 20 ans. Ils ont agrégé plein de choses, ils ont intégré plein de choses, et puis surtout ils ont écouté plein d'autres choses. Et puis, comme toujours, on n'écoute jamais la musique de son grand frère ou de sa grande sœur.
Alors, vous l'avez mentionné, en effet, il y aura un prix, enfin plusieurs prix, il y en aura trois. Trois prix qui vont récompenser certains de ces inouïs. Mais pour ceux qui n'auront pas la chance, entre guillemets, d'être choisis pour ces jurys, bon, c'est quand même une belle chance de monter sur la scène. Qu'est-ce que ça peut apporter comme tremplin?
Oui, alors après, j'ai envie de dire, c'est les trois prix. Ça met un habillage un petit peu événementiel, j'ai envie de dire, sur ce passage à Bourges pour ces 33 artistes. Mais ils sont tous lauréats, ils ont tous gagné. Ils ont tous des 4000 candidatures, il n'y en a que 33. Ils viennent jouer à Bourges et c'est eux qui, entre guillemets, eux et elles, qui ont remporté, entre guillemets, ce dispositif de repérage. Maintenant, les trois lauréats, c'est peut-être un peu cherry on the cake, mais sans enlever la préciosité de ces prix, néanmoins, les vrais gagnants sont les 33 et pas simplement ces trois-là. Voilà, c'est important.
Et qu'est-ce que ça peut apporter, justement, une vraie visibilité?
Énormément. Je pense que c'est à eux et elles qu'il faut demander. Mais de Manu Chao, les inuits, ça remonte, ça s'est découvert précédemment, mais ça a été créé en 85. Donc, huit années après la création du printemps, précisément, il y avait beaucoup d'artistes qui voulaient jouer sur ce nouveau festival qui leur offrait une scène. Justement, c'est l'artiste alternatif. On en revient là. Et pour gérer toute cette somme de propositions, ils ont créé ce réseau printemps pour pouvoir distinguer et faire le choix. Après, pour eux, ça représente énormément. C'est comme une salle de marché. Hein. Le terme est un peu dégueulasse, mais c'est des artistes qui arrivent à Bourges et qui n'ont pas de contrat, n'ont pas de tourneur, n'ont pas de label, n'ont pas d'éditeur. Et dans la salle, ils vont jouer de midi à 16h. C'est pas très, très glam. Mais ils vont jouer devant que des pros. Donc c'est sans doute le pire moment de leur vie. Mais c'est aussi un des moments les plus importants, parce que c'est souvent là qu'ils vont trouver un tourneur, un éditeur et un producteur et un label. Donc ça change énormément de choses, y compris ceux qui gagneraient pas, qui seraient pas lauréats. Souvent ça commence à Bourges. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la baseline du festival. C'est le festival où tout commence.
Alors, on parlait tout à l'heure de la programmation générale, de cette programmation inouïe, des créations aussi. Mais il faut le dire, il y a aussi toute une partie d'associations et de stands présents à proximité du festival. Le festival n'est pas seulement centré à l'intérieur et on peut aller découvrir ce village associatif.
Ouais, il y a plein de choses à faire sur le printemps. En fait, ils cultivent toujours c'est un festival populaire. Hein. C'est-à-dire que ça peut être très spé. C'est-à-dire qu'il y a vous allez voir Pionnière de l'artiste de Laurentis qui revit 80 ans de musique électronique composée par des femmes, donc de Eliane Radig, il y a tellement d'artistes, mais c'est quand même très respect, d'accord, à un concert de Charlotte Cardin ou de Magic System ou de Gims le dimanche, ce que je dis, de Patti Smith à Gims, ça veut dire Patti Smith, on ferme avec Gims, donc ça fait un sacré grand écart, donc quand même tout est vraiment possible entre les deux. Et ensuite, ça c'est des salles de spectacle, et après, des salles de concert. Et ensuite, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, plein d'expos qui sont en accès libre, et puis toute une ville qui fait la fête avec des concerts dans tous les bars, des stands partout. Donc c'est un mélange d'Avignon, de transmusical et j'ai envie de dire aussi de la braderie de l'île. Donc c'est un festival qui a une dimension populaire centrale. Et il y en a plus beaucoup des festivals comme ça, puisque le printemps gère son in et son off. Je crois qu'on est d'ailleurs le dernier festival à gérer les deux. Donc, et c'est dans cet équilibre que justement, je trouve que le festival a sa particularité, mais qu'en plus, il voit juste. Parce que je pense que quand on sait ce qui se passe à l'extérieur, on fait mieux à l'intérieur. Voilà, c'est mon sentiment. Sinon, on a un peu tendance à se renfermer sur nous-mêmes et de snober un peu le reste. Les flammes sont en moi, c'est l'incendie, le chant des sirènes, les cris de la ville. J'ai mis le polo, c'est la sortie, j'aime pas quand tu bois, t'es tout vilain. Les rêves morts, les humains aussi, le
seules histoires. Turn up dans le club vendredi soir.
Et vous savez maintenant quoi faire du 14 au 19 avril. Venez souffler les bougies du printemps de Bourges, 50e édition. Merci beaucoup Boris pour votre temps. On vous laisse retourner au dernier préparatif.
Merci beaucoup pour votre temps et puis de prêter attention à cette belle histoire qu'est le printemps.
À bientôt, merci.
À très bientôt.
C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, vous avez pu découvrir Amarao, le troisième album des Québécois de BB Club, sorti le 27 février via Secret City Records, ainsi que le deuxième album des Belges Chaton Laveur, nommé Labyrinthe, sorti sur Exage Records le 13 mars. Cette année encore, les radios de la Ferrarock seront présentes au cœur du Festival du Printemps de Bourges pour vous faire découvrir la programmation des Inouïs, ces artistes en devenir. Rendez-vous de 17h à 19h le mercredi 15 et jeudi 16 avril. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les albums et festivals soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.